Ah, mes chers auditeurs, j'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Ah, vous m'excuserez, hein, je suis à vous tout de suite, je me prépare juste un petit verre. J'ai amené la bouteille de Porto avec moi, vous êtes sûr, vous en voulez pas, hein? Ah ben, tant pis, hein, je la tue alors. Hein. Un petit peu de glaçon. Voilà. Et voilà. Hop. Et ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus.
Ah, et nous nous retrouvons enfin donc, et nous allons pouvoir commencer donc la lecture-audition de ce merveilleux livre 33, intitulé « La pagaille des quatre et demi armées », et nous pourrons débuter cela par... Débuter cela donc par le premier chapitre, bien évidemment, et qui lui s'appelle « Les adversaires de Cartalante ». Les adversaires de Cartalante. Commençons par un léger retour en arrière, mes chers auditeurs, et remontons à une matinée qui eut lieu environ un mois après l'incident des carottes de Samuel. Observons attentivement les événements qui s'y déroulèrent, et retrouvons ainsi l'inquisiteur et ses sbires, alors présents devant l'entrée du palais royal, dans la ville capitale de notre cher royaume lointain sans lettres, à une époque qui n'est pas encore le Moyen-Âge, mais plus vraiment l'Antiquité, et qui est un sol propice à la poussée des carottes.
Toutou le cheval, hein?
Nous y sommes, patron. C'est ici qu'a eu lieu le carnage. Et j'ai bien précisé au major de Marsenne de ne laisser personne approcher de la scène de crime pour ne pas la polluer.
Bien, bien.
Ouais, voilà, hein, faut pas polluer, hein. Une scène de crime écologiste, y'a que ça de vrai, hein. Hein, boss? Hein?
Et ça, là, c'est le véhicule du terroriste dont le majordome a parlé, je présume, hein? Mais comment diable notre criminel a pu arriver jusqu'ici sans jamais se faire contrôler avec un char pareil?
Ouais, c'est hyper bizarre, ça. Et tenez-vous bien, en plus, il est arrivé par le quartier Est.
Ah, bizarre, en effet. Sans être huppé, ce n'est pas non plus un quartier pauvre. Et la milice y patrouille constamment. Mais alors comment...
J'y venais, patron. Les miliciens en patrouille dans ce quartier ont tous, et soudainement, été sommés de retourner à la caserne hier en toute fin d'après-midi, peu avant l'attentat. Et cela, sur ordre direct du roi client premier.
Ouais, t'y voilà. Alors, du coup, on pensait que le trouilloriste, il avait un complice à l'intérieur du château, hein, et que c'est pour ça que ça l'a aidé à passer en micro-pute.
Hein, quoi? Passer en micro-pute?
Bah ouais, c'est comment qu'on dit, là, passer en mini-catin ou je sais plus quoi, des...
Je crois qu'il veut dire en catimini.
Ouais, voilà, ça.
Bref, oui, c'était sans doute une coïncidence dont notre criminel a simplement su tirer parti, voilà tout. Eh bon, nous fouillerons ce fourbi dans ce carrosse plus tard, hein, là ce n'est pas le plus urgent. Même si j'ai pu y remarquer quelques grimoires qui me semblent des plus... suspects.
Et aux trois membres du département de régulation des activités non naturelles de la région capitale d'ensuite pénétrer dans le palais royal. Sur place, dans la vaste salle du trône richement décorée, nos trois amis découvrirent avec stupeur un spectacle hallucinant. Le tout ponctué d'ailleurs d'une odeur des plus pestilentielles, oui. Car une véritable marée de cadavres infestait les lieux, tous affalés en direction du trône, la plupart dans un état de putréfaction avancée, et d'autres plus frais tels que ceux du ministre Gonzague et du défunt jeune capitaine Pringles.
Oh merde! Et c'est le jeune capitaine Pringles qui est là, il est tout défait, c'est moche!
Oh, faites pas les surprises, ce point aussi nous a été rapporté par le majordome.
Ouais, mais ça fait le deuxième capitaine qu'on perd cette année, quand même!
Voilà, hein. Et le pire, c'est que quand ça se passe comme ça, ben, à cause d'une mort violente et tout ça, ben, y a même pas de pot de départ au donjo, du coup.
Ouais, c'est dommage, hein, parce que quand il y a un départ à la retraite en bonne et due forme, on nous fait toujours des crêpes à la cantine pour l'occasion.
Et c'est beau, hein, sans dire les crêpes, hein.
Mais Colin ne prêtait plus attention aux propos de ses sbires. Entre-temps, s'était-il penché sur les morceaux éparpillés d'un corps qui gisait non loin du trône. Le plus gros des morceaux de ce corps se trouvait être le buste, auquel était encore attachée la tête. Vraisemblablement, ce cadavre, parmi les rares à être frais, il fallait le noter, était celui du terroriste lui-même, oui, l'ignoble sorcier responsable de tout ce désordre et l'abject meurtrier du bon roi client premier, souverain assassiné la veille dans cette même salle et quelques mètres plus loin.
Ce criminel a été mis en pièces par ses propres zombies, hein? Dommage, ça me fait perdre les revenus d'un bûcher. En revanche, il lui reste une babiole à offrir, on dirait.
Vous l'avez deviné, mes merveilleux auditeurs, car après avoir repoussé la capuche qui dissimulait le visage ensanglanté de l'odieux criminel rouquin, notre cher Colin Mulot ne manqua pas d'avoir l'œil attiré par une chose, curieusement, à la fois mat et brillante. Car le coup du défunt nécromancien se trouvait être toujours sain, du pendentif de conviction. Oui, et le sombre bijou passa alors du dit coup à la paume de notre ami, pour terminer ni vu ni pris dans sa poche. Et ensuite, se désaccroupissant, et tout en essuyant le sang qu'il avait sur les mains dans les plis de son long manteau rouge, Colin se retourna vers ses hommes.
« Messieurs, je pars enquêter dans les étages. Je vais notamment voir ce que je trouve de suspect dans les locaux des alchimistes de la cour. De votre côté, vous avez bien emporté votre sac de pièces à conviction, hein ?»«
Comme toujours, patron !»«
Ouais, et on va encore ramasser plein de preuves, donc, hein ? Et on y met tout dans les sacs comme d'habitude, hein ? C'est bien ça, des... »
Oui, voilà, tout ce qui a l'air magique, hop, dans les sacs, et puis les sacs sur mon bureau une fois rentré au donjon. Oui, c'est ainsi que se déroule une enquête bien menée, mes fidèles sbires Kevinson et Soprano Schneider.
Dis donc, hein, depuis le temps qu'on récupère des preuves, ça doit en faire des tas, hein. Je me demande bien comment le patron y fait pour tout ranger dans son bureau, tu sais, hein.
Eh ouais, il doit avoir un sacré sens de l'ordre pour réussir à y faire tout tenir, hein. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait encore tant d'articles magiques en circulation, malgré tout ce qu'on a déjà confisqué.
Ouais, et t'imagines qu'on serions pas là pour qu'il y en aurait moins, hein. Eh ben, les sorciers, ils chemisuleraient de partout, hein.
Ils pullulerait, tu veux dire?
Bah non, moi je dis qu'ils chemisuleraient, c'est parce qu'il fait bien trop chaud dans cette saison pour qu'ils mettent des pulls, hein. Ils sont quand même pas si bêtes, hein. C'est que t'es quand même un imbécile, hein, toi, dis donc.
Pendant cet échange constructif, Colin, lui, quittait la salle du trône. Par lassitude, il s'était momentanément fermé aux captations de son ouïe. Sans cela, alors qu'il s'engageait dans le couloir voisin, sans doute l'inquisiteur aurait-il perçu les lointains râles de douleur qui émanaient alors de la profonde oubliette d'un sombre cagibi entr'ouvert, et devant lequel il passa.
Alors, il est pas bon mon bouillon à la carotte ?
Plutôt.
Ouais.
Bof.
Non.
Ah, moi j'en veux bien encore un bol, hein, monsieur le cuistot.
Ah, y'a pas à dire. Ça fait plaisir, un gaillard qui aime ma bonne cuisine. Voilà, mais c'est le dernier, hein. C'est qu'il faut laisser un peu pour les soldats et pour le duc Grégor, Paldi.
Eh oui, retour au présent. Alors que nos protagonistes, fraîchement sortis des galeries aux lieux gorgoniennes, s'en étaient retrouvés les invités contraints de la Légion Cartalantaise venus assiéger la capitale.
Tu parles, ils se sont fait griller par les zombies pour rappel.
Certes, oui. Et cet imprévu avait de fait bousculé les plans fomentés par Grégor, le duc de Cartalante, petit cousin de feu la reine Gertrude et prétendant au trône, venu là pour réclamer ce dernier. Aussi, et puisque l'heure de midi avait commencé à poindre, le divisiteur venu du nord avait-il ordonné que soit monté un campement à proximité des portes nord-est de la ville, et à ses hommes en armes, tout d'ensuite, de s'affairer à décharger le matériel, monter les tentes et mettre en enclos l'autruche de leur seigneur, tout cela tandis qu'était en parallèle mitonné le repas de mi-journée. Notre groupe d'aventuriers, pour en revenir à lui, avait alors été tenu de suivre le mouvement pour leur propre sécurité, leur dit-on. Et d'un regard, Berlu le Blanc avait fait comprendre à ses compagnons qu'il valait alors mieux jouer le jeu d'ici à pouvoir aviser. Et donc, sans entrave, ni chaîne, ni cordage, ni menottes, nos amis patientaient depuis l'heure, assis languissants au milieu des caisses et sacs de matériel, et entourés de soldats au travail. Grégor, lui, s'était retiré dans sa tente, déjà monté avant qu'il n'eût fini de descendre du dos de sa monture, hein, vive le zèle, hein. Et pour finir de planter le décor, mes chers amis, j'ajouterai qu'à l'occasion, par-ci par-là, il arriva que quelques minuscules groupes de citadins se faufilassent hors des murailles, fuyant la ville en guerre, sans demander leur reste, et disparaissant ensuite dans les bois environnants.
C'est dommage que Soufflet ait pété la fiole de somnifère. Si on l'avait encore, on aurait eu qu'à la vider discrétos dans la marmite de bouillon, et puis hop, tout le monde dormirait dans l'heure, et on n'aurait plus qu'à s'éclipser à notre aise.
Non, sans avoir d'abord pris le temps de chasser les araignées chez tous ces beaux soldats. Merde, j'ai dit ça à voix haute.
Là n'est pas le problème, Binocle. Nous devons nous rendre au palais, et il serait déraisonnable de nous priver de la diversion que ces soldats représentent. C'est même inespéré. Réalisez un peu, les zombies, et donc à travers eux le démon, nous nous remarquerons peut-être même pas dans la cohue, et nous pourrions ainsi maintenir l'effet de surprise.
Ou alors, peut-être que vous connaissez un autre chemin secret pour nous permettre d'arriver au château en passant par-dessous le champ de bataille, monsieur Berlu.
Ah, il y a les égouts, j'imagine, hein, qui d'ailleurs ne sont même pas grillagés au pied des enceintes. Du grand n'importe quoi en haut lieu, comme toujours.
Ah non, hein, pas pour la forêt à longueur de temps. Et maintenant, on devrait remettre le couvert avec des souterrains. Ça va comme ça, hein, un peu de variété, bordel. Un décor urbain, ce sera très bien pour une fois.
Ouais, voilà. Et puis, Soufflade et moi, on avait prévu de passer faire quelques courses à la capitale. Donc bon, bah, ça tomberait plutôt bien que...
Cela suffit. La situation est grave. Nous n'avons pas le temps d'aller faire des emplettes.
De toute façon, Binocle, vous avez perdu tout votre or, rappelez-vous.
Mon or c'est-à-dire, pour payer. Mais, dans le contexte, éviter que des chouettes trucs tombent dans les mains de connards de zombies qui puent, c'est du sauvetage, hein, ça.
Ouais, donc bon, on nous en voudra pas si on sauve des choses.
Même qu'on serait des héros, d'abord.
Ça ressemble pas mal à du pillage de guerre, ce que vous me décrivez. Cela dit, c'est vrai que c'est tentant. Il y a tous ces machins hors de prix dans la grande rue, là. Ils m'ont souvent fait envie quand j'étais de passage. Des ustensiles, des livres. Et quelques vêtements neufs ne me feraient pas de mal non plus, il faut bien le dire.
Dites, quitte à faire des détours en ville, si on pouvait passer voir les ruines de mon immeuble, des fois que je pourrais y récupérer...
Mais misère, qu'est-ce qui leur prend ? Cela dit, je me sens un peu bizarre, moi aussi. Vous avez fichu quoi dans votre bouillon à la carotte, vous ?
De l'ampé, de l'eau d'un homme. C'est la procédure avant une bataille. Ça accroît le moral des troupes.
Et pour augmenter leur discernement, vous auriez quelque chose ?
Je sais. Si on va piquer un somnifère dans une droguerie, ben, on pourrait faire comme a dit Binocle tout à l'heure et le verser dans le repas.
D'accord, mais je n'ai pas compris cette histoire d'araignée qui venait après.
Des dalles d'escaliers en pierre et de couloirs bordés de vitraux. Alors que nous le retrouvons dans son flashback, c'était dans les interminables allées garnies de statues et de tapisseries du palais royal qu'évoluait l'inquisiteur. Si longue marche qu'il en avait d'ailleurs la peau moite.
Super, je vais slinguer toute la journée.
C'est croustillant les glaçons. Ça fait froid mais... pas grave. Bref.
Et pour ne pas aider, aucune âme ne fut croisée dans ces couloirs. Personne donc pour renseigner notre randonneur d'intérieur, non ? Car les serviteurs, même jusqu'aux plus obligés, sans doute horrifiés par l'attentat de la veille, avaient jugé bon de prendre congé. Et de fait, comment notre ami allait-il faire pour trouver les locaux des alchimistes royaux ? Comment ne pas se perdre dans un bâtiment si vaste et qui plus est inconnu de lui ? Le milicien allait-il s'en retrouver à tourner en rond comme dans un triste cliché de cinéma ? Cependant, chose inattendue, mes fidèles ouailles, il se trouva que la désertion des lieux allait en fait jouer en la faveur de notre ténébreux enquêteur, oui, car le lourd silence dans lequel baignait le palais ce matin-là permit ironiquement que fût entendu un murmure qui aurait été recouvert sinon.
Tiens, étrange ça. Si je me tiens là, j'entends plus. Et là... ah, ici ça recommence, et par là... hein, ça s'amplifie dans cette direction, on dirait. Est-ce que... mais oui.
Le long d'un mur, derrière l'ombre d'une large colonne en pierre noire, une tapisserie délavée s'était avérée, en plus de son rôle d'ornement couvreur de pierres nues, d'être une tenture vouée à dissimuler une porte en bois, lourde, épaisse et presque complètement coincée dans le seuil en pierre rugueuse. Après avoir ouvert la porte et une courte hésitation, la curiosité de Colin l'emporta et poussa ce dernier à emprunter l'escalier ainsi planqué, étroit et propice à la pénombre. Au bout de ses 57 marches, dont une faisait double hauteur car, à l'époque de sa construction, les maçons incompétents avaient mal géré leurs calculs, bref, tout en bas donc, l'inquisiteur, intrigué, se retrouvait introduit dans une crypte humide, cave dans laquelle les incantations, jusque-là constantes, pourtant cessèrent lorsque le fonctionnaire fut aperçu.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Délirante était la vision qui s'offrait à Colin, mes chers auditeurs. Celle d'un vaste caveau, aux multiples tombeaux, pas moins que ceux des rois et princes d'antan.
Ah.
Pardon. L'une de ces tombes était d'ailleurs ouverte, et autour d'elle, éclairée par quelques bougies posées sur les sarcophages voisins, debout au milieu de draps roulés en boule et de paniers à provisions dispersés sur le sol, se tenaient trois individus débraillés. Deux vieux et une jeunette, lesquels tous dévisagèrent l'inquisiteur avec un mélange de surprise et d'appréhension.
Pardon, monsieur, mais pourrions-nous savoir qui vous êtes ?
Oui, qui vous êtes ?
En tout cas, il est mignon.
Au silence, vous !
Mais Colin, le regard méfiant et la bouche bloquée en position ouverte, ne répondit pas de suite, non ? Il arrêta tout d'abord son regard sur la béante tombe en question, puis s'en approcha, un pas lent après l'autre, comme poussé à cela par les hurlements de son intuition professionnelle, et il eut raison.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Ça, mes braves auditeurs, c'était un cadavre, beuglant et remuant, bien que demeurant allongé dans la tombe. C'était le dernier des morts vivants, le seul à avoir visiblement résisté à l'arrêt du sort de résurrection survenu la veille au trépas du nécromancien. Sans doute fût-ce là la dépouille d'une personne qui ne souhaitait nullement retourner dans le monde des morts, quelqu'un qui avait une revanche à prendre dans le monde des vivants éventuellement. Mais qui cela pouvait-il être ? Ah, mais que c'est prenant tout ça !
Un peu de respect, jeune homme. Vous êtes en présence d'un membre de la famille royale, je vous ferai dire.
Oui, ferai dire.
Celui-là est pas mignon pour le coup, mais il est d'une famille riche, alors ça va.
Ça suffit !
Oh oui qu'il suffit, mais ça vaut pour vous tous. Je me présente.
Je sais ! L'insigne de la milice et un manteau rouge, c'est l'inquisiteur.
Oui, voilà, comme a dit la blonde. Et donc, vous allez m'expliquer ce que ce foutoir, d'accord ? Quelle est donc cette chose-là qui bouge dans le sarcophage, hein ? Vous semblez de toute évidence être de mèche avec le nécromancien dans l'affaire de l'attentat d'hier dans la salle du trône. N'ai-je pas raison ?
Absolument pas.
Oui, bon.
Ah, si vous me suspectez, vous pouvez me fouiller au corps si vous le jugez nécessaire, monsieur le milicien.
Tout d'abord, nous n'avons eu vent d'aucun attentat. Vous apprendrez en sus que nous sommes les alchimistes officiels du château, et non de simples malfrats.
Oui, de simples malfrats.
Tiens, tiens.
N'avez-vous pas compris ? Un tombeau situé juste à droite de celui du défunt roi Gaston, revêt bien ton bâton. Que pensez-vous que cela puisse être ?
Certes, oui. Voilà deux jours que les vieux maîtres alchimistes et leur jeune stagiaire Pauline s'étaient réfugiés dans cette crypte semi-secrète. Ils avaient en fait craint de finir sous la lame de P, ce tueur en série qui alors, souvenez-vous, avait agi deux nuits consécutives dans le palais royal, terrifiant ainsi tout son personnel. Et dans ce sous-sol donc, la veille au soir, et à la grande surprise de notre trio d'artisans, du bruit avait émané de l'une des tombes. À l'alchimiste en chef d'alors narrer à Colin comment ils ouvrirent le dit cercueil de pierre pour y découvrir un défunt membre de la famille royale, mais dans un état de non-mort.
Pardon. Oh là là, DJ, j'ai le hockey. Un hockey rototo. J'ai un rotquet. C'est-à-dire que... Je fais des rots par intermittence en octant. C'est une nouvelle maladie que je viens d'inventer. Excusez-moi. Donc,
Et ce zombie opiniâtre là dans la tombe ouverte, qui ne quittait plus la vie, en vérité, n'était autre que le prince Henri. Oui, le fils légitime de feu Gaston XVII, ce prince débile qui sculptait ses crottes, mort d'avoir ingéré trop de colle au terme de la préface de la saison 8, mes adorés auditeurs, oui, c'est bien lui. Et Henri, justement grâce à toute la colle qu'il avait dans les tissus, en était devenu le seul corps de la crypte en suffisamment bon état de conservation pour avoir été touché par le sort de résurrection, et également pour que le dissort ne le quitta plus, hein, puisque, collé à lui, de fait, hein, c'est logique, non ?
Vous dites n'être pour rien dans l'éveil de ce cadavre, hein ? Mais quelles étaient alors toutes ces formules que vous récitiez avant que je n'arrive ici ?
Oh, en fait, on chantait juste une vieille berceuse en espérant qu'il se rendormirait. C'est que, depuis qu'il est réveillé...
Eh ben oui, paralysé par la colle qui le raidissait presque entièrement, Henri le zombie ne pouvait pratiquement plus que rouler ses yeux vitreux, râler, baver et lâcher des caisses.
Oh, je comprends mieux. Quelle horreur ! Il est pourri de l'intérieur ou quoi ?
En théorie, vu son état, oui.
Oui, oui.
C'est pour ça que la beauté intérieure, ah ben des fois, moi je dis qu'il faut voir, hein.
Bon, assez de parlotte. Il est plus qu'évident qu'il se déroule ici des choses extrêmement suspectes. Vous allez donc me suivre pour vous expliquer à la tour de la milice, messieurs dames.
Comment ? Oh, mais...
Oui, bafouillement indigné.
En passant, je pense bien qu'il est du signe du feu, monsieur le milicien.
Hein ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, Miss Décolleté qui tient à presque rien ?
Ah, je suis que stagiaire, hein, mais je me spécialise dans l'étude des forces élémentaires. Et vous, je suis sûre que vous avez une âme de type feu.
Hein ?
Y a qu'à voir avec votre tempérament, hein. Et puis, vous avez jamais ressenti un genre de fascination pour le feu, hein ? Et ce manteau, à votre avis, pourquoi un rouge ? Hein ? Hein ?
Mais au fait, feu, bûcher, cap rouge, j'ai failli oublier. Bon, les trois alchimistes, je vous propose un petit jeu. Je n'ai que deux paires de menottes avec moi. Aussi, je laisserai sa liberté au premier de vous trois qui me dira où se trouve votre laboratoire et les deux autres au bûcher. Alors, j'attends. Tic-tac.
Sachez, monsieur, que notre petite équipe est soudée. Nous resterons solidaires, quoi qu'il puisse advenir. Solidarité.
C'est dans l'aile sud, aurait-il. Chaussée, tout au fond du grand couloir à droite, bel inquisiteur. Et tenez, en voici la clé, ainsi qu'une fiole de lubrifiant, au cas où, si jamais la serrure crêpe un peu, ou pour autre chose.
Sale mégère.
Oui, c'est ma fiole de lubrifiant, ça, je la retrouvais plus.
Ainsi, les deux alchimistes furent-ils emmenés par Colin Mulot en direction des geôles de la milice. Auparavant, cependant, au sortir de la crypte, une fois remontés dans le couloir et tandis que l'inquisiteur ouvrait la marche, les deux mages captifs prirent sur eux de refermer furtivement la porte dérobée, et cela sans manquer de la caler solidement dans le seuil rocheux par un bon coup d'épaule. Et la pauvre stagiaire Pauline, elle qui refaisait son petit paquetage en bas pendant ce temps, s'en retrouva ensuite fort dépourvue au moment de regagner le couloir, oui, chose qu'elle ne put faire, vous l'aurez compris, hein. Aussi, l'heureuse gagnante du concours de l'inquisiteur demeura-t-elle dans la sombre cave, trouvant cependant réconfort dans les bras du mort-vivant Henri, hein. Mais hélas, ce dernier, en tant que zombie, finit naturellement par lui brouter un peu plus qu'elle ne l'avait envisagé dans les projets de relations qu'elle avait concoctés suite à son infortune. Et donc... Voilà. Cela dit, Henri finit également par retrépasser un peu de temps après, lentement autodigéré par l'infection présente dans ses propres flatulences.
Oh putain, ce porto. Ouh.
Bref... Et Colin Mulot, quant à lui, notre monsieur Bûcher, avait au terme de cette affaire du nécromancien encore grossi sa fortune. Mais ici, d'une façon plus que considérable, car outre le butin obtenu sur le dos du dit sorcier, la saisie dans le laboratoire du palais royal procura au fonctionnaire le meilleur matériel qu'il eût pu rêver de spolier, celui des alchimistes de la cour. Les meilleurs grimoires, les meilleurs potions, et des ingrédients en plus que rarissimes.
Ouais, ouais, bah c'est beau la nostalgie, mais n'empêche que t'as tout paumé ton or, toi aussi, maintenant, copain.
Oh, ça va.
Dites, il se passerait pas un truc, là ? L'ambiance a comme changé d'un coup dans le campement.
C'est vrai, ça ? Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter, ces soldats ?
Regardez, certains fixent cette colline, là-bas. Effectivement, on dirait qu'un groupe d'hommes en armes arrive et se rassemble en haut de cette colline. Mais ce ne sont pas d'autres cartalantais, visiblement.
Non, on dirait plutôt des civils et... Mais merde, ça alors ?
Quoi ?
Le type là-bas, celui qui semble être leur chef.
Oui, eh bien.
Je le reconnais, c'est l'un de mes sbires. C'est Kevinson.